Je vous propose ce matin une lecture biblique dans le livre de Jean, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les 15 premiers versets. Évangile de Jean, chapitre 6, les 15 premiers versets. Alors j'ai chronométré ce matin, il faut à peu près 2 minutes et demie pour lire. Nous allons quand même lire parce que pour moi il est essentiel que place soit d'abord donnée au texte biblique. Et puis déjà, je fais confiance que le Seigneur, déjà dans ce moment de lecture, on a le privilège aujourd'hui de projeter aussi les passages, c'est du progrès. Je suis déjà donc convaincu que le Seigneur, par même une lecture comme ça, va vous toucher par un mot, par une pensée, et que c'est finalement le rôle du Saint-Esprit que de nous conduire dans la plénitude de Dieu. Je ne suis que un petit maillon. Alors moi je lis dans la semeur, du pain pour tous. Waouh, on se croirait peut-être un meeting syndical. Du pain pour tous. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, l'un des disciples, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait pas cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe, 6500 euros selon le salaire moyen d'un Français. Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ? Il lui répondit que... Non, là, je vois d'autres là. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent mangé tous, à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangé. Lorsque tous ces gens virent le signe miraculeux, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira tout seul dans la montagne. Amen. Fais-nous grâce ce matin de nous rejoindre par ta parole. Toi qui nous enseignes à te demander notre pain quotidien, donne-nous aussi de cette parole de vie pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous mettre sur le chemin de progression avec toi. Nous te disons merci pour ton esprit et ta parole qui agissent en nous. Amen. Il est dit de Jean qu'il dit clairement son intention quand il écrit aux croyants. C'est pour rendre témoignage de Jésus. Et tous sont d'accord pour dire que le ministère de Jean l'apôtre vise à encourager, à croire, à s'investir dans la confiance dans Jésus de Nazareth. C'est bel et bien lui donc qui est le Fils de Dieu, venu en chair et en os. Il est venu très concrètement. Et tout à l'heure, j'ai été nourri par une prière d'une sœur qui nous rappelait qu'aujourd'hui, il y a 2000 et quelques ans, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem avec le but de donner sa vie. Et c'était vraiment quelque chose de phénoménal. Hosanna, on criait, il y avait des foules d'immenses qui vraiment célébraient donc les rameaux. Et puis, dans cette même semaine, petit à petit, les choses vont se compliquer jusqu'à ce que le Christ Jésus se retrouve tout seul à la croix, abandonné, même, hélas, par les disciples. Jean écrit longtemps après Jésus, après même la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et le contexte est marqué par la domination romaine. Les Juifs sont déboussolés, ils ont perdu leur autonomie, ils sont sous occupation romaine. Et ils n'aspirent qu'à une chose, à la liberté, à avoir une autonomie, à avoir leur propre roi, à ne plus être dominés par les Romains. Et les chrétiens sont mis à mal parce que Rome impose aussi sa religion païenne. Ave César, fallait-il dire. Fallait célébrer César comme un dieu. Et ils sont obligés de se replier pour vivre leur foi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Ben-Hur, ce serait un bon moyen de se rendre compte de l'ambiance de l'époque où les chrétiens étaient en difficulté. Ça, c'est de l'extérieur. Mais plus grave est la menace intérieure de ce temps, à l'intérieur de la chrétienté. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de nouvelles doctrines qui apparaissent et tendent à saper leur foi. Il y a la doctrine de la négation que Jésus soit venu d'une manière semblable à nous. Oui, on pouvait le voir, mais c'était pas un homme tout à fait comme nous. Lui, c'était un être spirituel et il n'a pas réellement épousé notre condition de chair. Et c'est contre ça que depuis l'évangile de Jean, depuis les trois épîtres, jusque même dans les dans le livre de l'Apocalypse, Jean se bat pour dire ce Jésus, il est venu. Et il ouvre son évangile que nous avons lu ce matin par l'affirmation massive qu'au commencement était la parole et que la parole est venue et a habité parmi les humains. Nous avons touché, nous avons entendu, nous avons vu ce Jésus. Et apparemment, il est l'un des derniers témoins en tant qu'apôtre puisqu'on le retrouve plus tard dans le livre de l'Apocalypse à Patmos, en Asie, quelque part là-bas, un vieillard, il a beaucoup vieilli, et c'est là qu'il reçoit donc des révélations sur le futur, ce fameux livre donc de l'Apocalypse. Mais toujours, même jusqu'à cette pleine vieillesse, en train de répéter le même message, ne vous fiez pas à une autre personne. Ne croyez pas que votre salut vient d'ailleurs. Votre salut vient dans ce Dieu fait homme incarné pour, comme nous l'avons prié tout à l'heure, à notre place, payer le prix de la justice. Son sang est versé. Il a donné sa vie. Et Jésus donne sa vie. C'est pour ça qu'il est venu. Et là, on a l'un des signes que Jean convoque pour dire que ce Jésus étant pleinement homme est en même temps pleinement Dieu par les œuvres même qu'il accomplit. Entrons maintenant dans le texte qui s'intitule « Du pain pour tous » ou ce récit de la multiplication des pains qu'on trouve dans les trois autres évangiles. Et en entrant dans ce texte, la première pensée ce matin, c'est que pour être utile aux autres, pour que les autres soient réellement nourris, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi-même. Dans un premier temps, Jésus est débordé. Il est sous pression. Il y a des choses qui se sont passées au chapitre 5. Il a dû se défendre. Il a dû convoquer l'Ancien Testament, ce livre de Deutéronome, pour dire que lui, il est le nouveau Messie. Il a affirmé qu'il est venu pour donner sa vie pour la libération du peuple qui reposait dans l'esclavage, non plus du Pharaon, mais du péché. C'est lui le nouvel Moïse. Et ses actes témoignent qu'il est vraiment le Messie, celui que Dieu envoie. Mais le voilà débordé, le voilà contrarié. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retire pour fuir cette pression de la foule. Ça l'entraîne dans la montagne où il a l'habitude de communier avec le Père. Cela vous lie sans doute à mon message précédent, de la dernière fois, où je vous ai dit que Jésus, dans le désert, va puiser des ressources pour faire face à l'épreuve et aux tentations. Ici aussi, Jésus va à la montagne, dans la présence de Dieu, pour se reposer, pour se fortifier, pour prier, se mettre en relation avec Dieu, pour avancer. Bien que fils de Dieu, il est dit de Jésus dans Hébreu qu'il a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous n'échappons pas à cette économie qui veut que le croyant peut prendre un temps de retrait, de prière pour se fortifier, pour renouveler sa relation avec Dieu de manière à être plus opérationnel. C'est pas à la force seulement de nos poignets, de nos capacités, ça dépend aussi de notre démarche à entretenir une spiritualité nourrie dans l'intimité de Dieu. Jésus disait, je ne fais rien que je ne vois faire au Père. Succès, oui, œuvre, oui, mais d'abord communion profonde avec Dieu pour être renouvelé. Quand ça ne va pas, ayons ce réflexe de la prière. En tout temps, en tout lieu, Dieu par Jésus-Christ est prêt à nous accueillir dans sa présence. Et Jésus nous donne l'exemple. C'est un principe, une hygiène de vie spirituelle. Et je dis avec force que cette relation personnelle avec Dieu prime sur le reste, prime sur tout. Repos. C'est pourquoi Jésus, fils de Dieu, ne dispose pas d'autres ressources que celles-ci, celles qu'il puise dans la communion avec Dieu. Et si lui, le fils de Dieu, il a besoin de cette communion, à plus forte raison, moi qui suis dans le péché, j'ai besoin d'être fortifié. C'est pourquoi Jésus, dans son message, va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. » Oh, on utilise souvent ça pour s'adresser aux non-croyants. Mais c'est aux croyants juifs, aux pharisiens, aux religieux de son époque que Jésus s'adresse pour leur dire, vous vous fatiguez, vous vous épuisez, vous vous époumonez pour rien, mais venez entrer d'abord dans mon repos. La foule est attirée par les guérisons miraculeuses, les signes de toute puissance, mais celles-ci ne conditionnent pas Jésus. Ce ne sont pas d'abord à leurs attentes, à leurs désirs, à leurs besoins qu'ils cherchent à satisfaire. Du pain pour tous, on pourrait penser à une campagne électorale, mais comme je l'ai dit, Jésus sait, au-delà de satisfaire des foules, il sait qu'il faut qu'il fasse pleinement ce qu'il a à faire de la part du Père. Deuxième point. Du verset 5b à 11, Jésus va donner un enseignement. C'est vous qui êtes la réponse. C'est vous qui êtes la clé. Jésus va se présenter, lui, comme le pain de vie. Jésus va dire clairement qu'il est venu pour sauver, pour chercher ce qui est perdu. Il est venu pour donner sa vie, mais il cherche à enrôler des disciples, des gens qui le suivent, pour faire exactement la même chose, et même des œuvres plus grandes, puisque le ministère de Jésus était cantonné dans un petit espace géographique. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais Jésus sait que la mission qu'il a à faire, c'est de mourir à la croix, puis de susciter un peuple pour ensuite être une réponse beaucoup plus grande. Pour intituler cette portion, avec Dieu, nous ferons des exploits. La première dimension, c'est que pour être une réponse, Jésus regarde, observe ce qui se passe autour de lui. Jésus se sent concerné. Jésus écoute, Jésus regarde, Jésus voit. Et quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la foule amassée pendant longtemps à l'écouter, mais il perçoit là qu'il y a un problème. Il leur faut leur donner à manger. Et dans le monde où nous sommes invités à avoir cette conscience que nous sommes, oui, comme je l'ai dit et comme Paul le dira plus fort que moi, des ambassadeurs, des chargés de mission dans le monde, et que ça commence par écouter, par observer, par regarder, par nous impliquer, nous sentir concernés par ce qui se passe autour de nous. C'est cette attitude que Jésus, que Dieu attend de nous, que nous levions les yeux, que nous regardions pour saisir toutes les occasions de témoignages qui nous sont données. Jésus donc demande à un de ses disciples, mais voilà, il faut donner à manger à ces gens, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour nourrir la foule? Et un bon pédagogue, Jésus s'adresse à Philippe au verset 5. Philippe dit, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que pour pouvoir donner à manger à tout ce monde, il faut à peu près 6 500 euros, comme j'ai dit. On ne les a pas, et même si on les avait, il faut trouver encore un boulanger, et il faut que le boulanger soit prêt à faire autant de pain. Enfin bref, il rentre dans ce qui nous caractérise, thèse, antithèse, et puis synthèse. Il rentre dans un calcul purement rationnel. Et c'est très nickel. Hein? Voilà, on n'a pas les moyens. Et même quand bien on aurait les moyens, encore ci et ça et ça et ça. Et vous savez, souvent nous sommes spécialistes de dire à Dieu c'est le comment et le pourquoi, ce qu'il faudrait. Voilà, comme si lui-même ne le savait pas. Il se lance dans ce qu'il y a de plus pragmatique. J'ai vécu une séance avec des anciens d'église qui est mémorable dans ma pensée. Ça fait une trentaine d'années que je suis pasteur. Et puis, dans cette séance, on devait voter le budget de l'église. Moment très important, un débat. Comment accorder la priorité à l'argent de l'église? Et puis, le point portait sur servir du thé. On avait l'habitude d'offrir du thé, et puis d'aucuns ont demandé est-ce que ce n'est pas le moment quand même de faire payer les gens. Et ça a duré plus de 30 minutes où nous tournions en rond entre les partisans de « il faut faire payer pour boire le thé » et puis les autres qui disaient « non, quand même que du thé, on peut le donner gratuitement ». Et un des anciens, je me vois, s'est levé, énervé. Il a dit, ça coûte combien ce thé? À peu près 200 francs suisses. Il les a payés, lui, si on... passons à autre chose. Ça, je me rappellerai. Parfois, on tourne en rond dans nos calculs, dans nos discussions, au lieu d'aller au concret des choses. Notre réalisme, notre fonctionnement, notre sens du calcul, de réfléchir, c'est pas interdit. Hein? Ailleurs, il est dit que pour bâtir une maison, il faut s'asseoir calculer. Mais nous marchons par la foi et non par la vue. Mission impossible, disent les 10 espions. Et puis Dieu dit, oui, comme a prié mon frère, mission impossible, mais simplement parce que Dieu a dit, nous allons y aller. Et c'est au nom de la parole de Dieu qu'ils ont vu le miracle s'accomplir. Rassurez-vous, ce matin, je n'ai pas pour objectif de vous expliquer le comment, le pourquoi de cette multiplication du pain. Je n'ai pas compris, je ne cherche pas à comprendre, sauf que je sais qu'un jour, je comprendrai. C'est-à-dire que, voilà, il y a des questions qu'on va devoir débattre là-haut lorsqu'on le verra face à face. Dis-moi, Jésus, comment ça s'est passé? Cette alchimie qui fait qu'à partir de 5 pains et 2 poissons, on donne à manger pour plus de 10 000 personnes, parce qu'en ce temps, on comptait que les hommes, il y avait les femmes, les enfants, enfin, il y avait du monde, quoi. Mais comment on passe de 5 pains et 2 poissons à pouvoir nourrir une foule et il en reste voilà, moi j'ai pas compris, je ne cherche pas à comprendre, je m'incline devant ce Dieu créateur qui à partir de rien est capable de faire beaucoup. Donc ce matin, ne vous attendez pas, ne vous focalisez pas sur la multiplication du pain. Je suis en train de vous dire simplement que Dieu s'attend à ce que nous fassions des choses qui sont de l'ordre du surnaturel, qui sont de l'ordre du donné extraordinaire. Et puis, ça se passe dans l'ordinaire, et c'est sa souveraineté, c'est sa puissance, comme a parlé donc tout à l'heure le frère, de faire en sorte qu'à partir d'une petite graine de semence, se lève un épi, 60 grains, 100 grains, certains même un peu plus, ça le lève de lui. Et ici, la question ne se pose pas, n'est pas à poser en termes des moyens, de ce que nous disposons, de ce que nous disposons pas. André va dire, mais ici il y a un jeune homme, 5 pains, 2 poissons, mais, c'est monsieur oui, mais de la question. Il y a un peu, oui, mais ça ne suffira pas. On dit certes, on continue, c'est un test que Jésus fait à ses disciples. Et nous pourrions nous poser la question maintenant, quelle est notre façon d'aborder notre tâche, nos responsabilités en église, en famille? Est-ce que nous comptons sur les ressources que nous avons, dont nous disposons, ou bien nous comptons d'abord sur le Seigneur qui a fait les cieux et la terre? David disait, je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et ici, il y a une leçon que Jésus donne. Il va le leur dire, hein, Franco, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, c'est possible. Et Pierre va, avec aussi quelques autres, apprendre que toute une nuit, on peut travailler, on peut ramer, mais qu'il suffit de l'intervention, de l'ordre de Dieu, de la pensée de Dieu qui dit « jette ton filet du côté droit de ta barque » pour que tout à coup, je ne sais pas comment encore, il y ait tellement de poissons qui fait trembler les pêcheurs professionnels qu'ils étaient. Mon troisième point, c'est comment faire pour faire. Dans cette multiplication du pain, Jésus dit, faites asseoir ces gens, prenez soin de ces personnes. Et la première dimension, c'est celle dont j'ai entendu aussi ici ce matin. Dieu est bon, hein, il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De cet accueil inconditionnel, c'est ces deux grands-mamans qui ont pris soin de Saïd pour lui dire qu'il avait des beaux cheveux. Ça a été le début de la guérison, de sa restauration, de se sentir pleinement reconnu en humanité. Et c'est cet accueil inconditionnel, sans jugement, sans procès, sans question, sans pression, sans tu dois, il faut. C'est cet accueil de l'autre que le Christ nous invite en tant que disciples. Faites-les asseoir. Qu'importe qu'ils aient oublié le pain, qu'ils nous agacent, que tout le temps ils nous suivent, faites-les asseoir. Et le texte prend soin de nous souligner qu'il y avait des verts pâturages. comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et s'il y avait de verts pâturages, c'est qu'il y avait de l'abondance, c'est qu'il y avait du bien-être. Ça commence par cet accueil inconditionnel autour de nous. Pour que les gens se posent, pour que les gens soient bien avec nous. Et là, je pose aussi la question du cadre. Dans toutes les communautés où j'ai été, l'enjeu était, est-ce que si des gens qui ne sont pas encore convertis comme nous le sommes viennent dans notre église, est-ce que ces gens-là seront à l'aise? J'ai toujours dit à mes paroissiens, faites en sorte que l'église que nous vivons, vous n'ayez pas honte d'inviter vos amis à venir entendre le message de l'évangile. La deuxième dimension, c'est faire avec les moyens du bord. Ne pas trop focaliser sur la logistique. Ce n'est pas ça d'abord qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu nous confie. Et Dieu, certainement, en commençant cette communauté dont je ne connais pas l'histoire, a fait des promesses sur ce lieu, avait une intention. Et vous essayez, et bravo à vous, de discerner, mais qu'est-ce que nous avons à faire dans ce monde présent? Et c'est ça la priorité. On n'y va pas parce qu'on dispose de moyens, de ministères, de gens qui ont tout compris, qui sont capables de tout. On y va simplement parce qu'on discerne une pensée de Dieu. Et on va avec nos petits moyens. Et avec nos petits moyens, on dit qu'avec ces quelques pierres, enfin une pierre même, David a vaincu le professionnel de la guerre, l'équipé de la guerre, qui était Goliath. Je pense donc que cette marche de la foi, c'est la nôtre. Et enfin, la troisième dimension, le comment faire que Jésus enseigne, c'est nous mettre à disposition dans l'obéissance. Et là, j'ai eu à cœur de vous lire un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, que je vous lis très rapidement. Je me suis promis, après une semaine d'activité, de ne pas trop vous fatiguer. Et je vais essayer de tenir mon engagement personnel. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes, ainsi qu'il est écrit. Ne discernez-vous pas une cohérence avec ce miracle de la multiplication des pains? À partir de 5 pains, 2 poissons, donnez généreusement, donnez de tout cœur. Non seulement la foule est rassasiée, mais il y a du reste pour autre chose. Et on aurait pu aussi aborder ce texte sous l'angle écologique. Hein. Jésus, il n'est pas venu pour gaspiller les ressources pour ceux qui sont passionnés pour ces choses. Hein. Enfin, ça doit nous concerner tous. Jésus prend soin de dire de ramasser, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de mettre à disposition de Dieu ce que nous avons. De ne pas dire, puisque ça, c'est rien, vous savez, il y a tellement de gens qui se regardent, moi j'ai rien, moi je ne suis rien, moi je ne peux rien. C'est pas le regard de Dieu posé sur chacun de nous. Et ce matin, j'ai choisi de faire un clin d'œil, mon musicien tout à l'heure, dans mon imagination débordante, j'ai dit, mais ces 5 paniers sont certainement aux 5 disciples de la scène. Ces 12 paniers, pardon, sont aux disciples. Et je pensais aux musiciens avec toutes sortes d'instruments qui m'ont nourri personnellement par la musique. Je dois dire qu'ici, la musique est bonne, elle est appropriée, elle nous aide sans déborder, hein, sans être massive, à nous transporter dans la louange. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, chacun son avis. Et je crois que quand on sert le Seigneur de tout notre cœur, dans la simplicité de tout notre cœur, non seulement Dieu bénit l'instant présent, mais il bénit au-delà de ce que nos yeux voient. Celui qui est fidèle, c'est aussi celui qui fait confiance. Fidélité et confiance, ce sont des mêmes mots. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Terminons assez rapidement. En ce dimanche de Rameaux, où Jésus fait entrer son entrée à Jérusalem, le texte nous dit que c'est à l'approche de Pâques hein, que ce texte se déroule. Donc je ne suis pas à côté de la plaque. Il y a de l'enthousiasme débordant. Et il y a deux types de projets, deux types de visions du monde. Hein, vous êtes en campagne électorale. Hein, avec, et c'est passionnant de vous suivre, vous autres Français, dans vos capacités. Voilà. Inimitables les Français en campagne politique. Hein? Mais ici aussi, il y a deux enjeux forts. Il y a ce premier enjeu d'un calcul politique, d'une attente humaine, d'un roi libérateur pour résoudre tous nos problèmes, pour être notre défenseur. Voilà comment les Juifs étaient tendus, ils sont tendus à la libération, à la reconnaissance de leur identité bafouée par ces drôles d'étrangers qui sont venus nous soumettre à toutes sortes de pratiques contraires à nos mœurs et à nos valeurs. Et puis ils attendent parce que Dieu leur a promis ce libérateur. Et Jésus se présente comme le roi serviteur, celui qui est venu pour donner sa vie. Et Jésus se détourne des auras, verset 17. Il sent qu'on veut le pousser à faire l'économie du royaume de Dieu ici et maintenant. Là aussi, si on est attentif, il y a des gens qui croient que c'est à l'église d'instaurer ici un royaume, d'imposer une pensée massive. Bon, ça, je ne pense pas que ça va venir, mais ce n'est pas pour maintenant. Nous ne sommes pas chargés de régler l'ensemble de la justice de Dieu dans ce monde. Jésus est venu servir. Et il va donc plus loin que ce roi, l'établissement de ce royaume politique. Il est donné sa vie. Et trois choses pour terminer. C'est que pour sauver notre monde, aujourd'hui encore, Dieu choisit des choses insignifiantes pour confondre les fortes. Petit troupeau, c'est à toi que Dieu a donné le royaume. La deuxième dimension, c'est possible de faire ce que Dieu nous demande, tout simplement parce qu'il l'a dit. Et ses promesses, sa vision demeure au-delà des obstacles qui peuvent se dresser sur la route. Et la troisième chose, c'est que chacun à son échelle est utile et peut faire quelque chose. Ce petit garçon de la Seine, je vois toute la chaîne, je vois sa mère, je vois son père, je vois le travail, je vois le boulanger du coin, je vois tous ceux qui sont déployés pour que ce pain arrive à Jésus. Si vous essayez de... Je vois ce laboureur qui était dans son champ, battu par la pluie, qui devait mettre ses grains. Voilà, je vois toute une chaîne de personnes, chacun à son niveau, engagé, responsable, qui permettent que le miracle ait lieu. Pour qu'il y ait la manne dans les déserts des hommes, il nous faut travailler, non pas en vue de la nourriture qui périt, moi pour le pain de vie. Et vous avez eu raison durant toute cette semaine de lutter. Et vous aurez encore raison les semaines qui viennent de continuer à lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne pour que son règne s'établisse ici et maintenant et au moyen de notre don, de notre adoration, mais aussi de la disposition de nos cœurs. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont mouillé la chemise, peut-être même sans voir de résultat. C'est pas ça la question. Ça appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui est souverain dans sa manière de faire les choses. Il les fait belles, chaque chose en son temps. Et ma prière, c'est que le grain jeté à terre toute cette semaine puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à donner toujours ce pain qui nourrit vraiment. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce récit qui est un test pour les premiers disciples et qui reste un test pour nous. Tu veux venir nous aider à prendre conscience, comme ce petit garçon, que chacun de nous, que le plus petit d'entre nous est grand à tes yeux parce que tu as donné ta vie. Et chacun ici a la valeur de ton sang versé, de ta vie donnée, Seigneur. Donne-nous de vivre en regardant autour de nous et en t'apportant ce que nous avons simplement pour que toi, tu le bénisses. Béni sois-tu, toi Dieu, le Créateur de toutes choses, le Maître de la vie. Je te prie de bénir chacun et d'aider chacun à se sentir utile. Que ton règne vienne. Amen.